Donc bonsoir à tous, bienvenue à Saint-Eustache pour notre parcours sur la liberté, la libération dans les textes bibliques. Après d'autres parcours, vous vous souvenez, il y a 2 ans, c'était la filiation, la paternité. L'an dernier, c'était la joie, le bonheur, le plaisir dans la Bible. Donc la liberté, grand thème philosophique. Nous étions partis de l'expérience de l'Exode, où le peuple hébreu fait mémoire d'un événement d'ailleurs peut-être mythique, mais en tout cas, le peuple hébreu voit dans ses gènes spirituels l'expérience profonde d'une libération. Et ce qui est très frappant, c'est que contrairement effectivement à la culture méditerranéenne, qui est assez marquée par le fatalisme, le fatum, l'idée que le temps est cyclique, que tout revient, qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, que finalement ce qui l'emporte, c'est le nihilisme. L'expérience biblique est quand même une expérience qui fait confiance en la liberté. On ne le dit jamais assez parce que le Dieu de la Bible, quelquefois, a l'air d'être tellement tout-puissant, sa volonté est tellement maître de l'histoire, et les causes secondaires, comme disent les théologiens médiévaux, paraissent tellement, justement, minimes ou subordonnées à la volonté de Dieu, qu'on oublie que l'homme de la Bible est profondément libre. Je mets devant toi la vie et la mort, choisis la vie et tu vivras. C'est l'expérience de Deutéronome, mais aussi chaque personnage biblique fait l'expérience de sa liberté, jusqu'à Marie, hein, dans l'expérience de l'Annonciation que l'on va fêter bientôt liturgiquement, le 25 mars. Il y a toujours la possibilité du refus ou de l'adhésion qui est offerte aux hommes et aux femmes de la Bible. Alors, nous étions partis de l'Exode et puis nous avions vu avec Jésus l'accomplissement de la prophétie d'Isaïe, aux captifs la libération. Donc, quelle était la captivité? Captivité du péché, captivité de la maladie. C'était nos deux dernières séances. Et aujourd'hui, voilà que nous abordons Saint Paul. Alors, Saint Paul, c'est du lourd, comme diraient mes élèves. C'est du très très lourd, et évidemment l'épître aux Romains que nous avons choisi d'aborder ce soir dans ses chapitres 7 et 8 est un morceau incontournable, comme on dit, de la littérature chrétienne. C'est un passage obligé pour tout chrétien qui veut rendre compte de sa foi de manière rationnelle et éclairée. C'est un texte difficile, un texte que probablement Paul a écrit lorsqu'il était à Corinthe, lors de son deuxième voyage missionnaire. Il écrit à une communauté romaine qu'il n'a pas fondée, il faut le savoir. C'est une des rares, précisément, dans les Épîtres, une des rares communautés, bonsoir Chantal, qu'il n'a pas fondée lui-même, qui est probablement, on le voit à travers les lignes, composé à la fois de juifs, donc qui viennent de la synagogue, et de païens, de culture grecque, puisque on voit qu'il s'adresse à des gens qui connaissent la Torah, mais il s'adresse aussi à des gens qui veulent se greffer, selon la fameuse image de l'olivier sauvage qui vient se greffer sur l'olivier franc. Il s'adresse aussi à des païens, donc une communauté mixte probablement. Et l'Épître aux Romains est un long exposé doctrinal. Alors, Paul, vous le savez, n'est pas Cicéron, il n'est pas non plus Bossuet, donc par moments, la pensée semble un peu obscure, difficile. On voit qu'il est aux prises avec la langue grecque, il dicte à un secrétaire, et il tourne autour donc de la notion de péché, la loi du péché, l'insuffisance de la loi, de la Torah, de la loi révélée pour libérer du péché, qu'est-ce que la justification, qu'est-ce qui rend juste. Il oppose les œuvres et la foi, il oppose la foi et la loi. Donc il y a toute une dialectique paulinienne vraiment dans laquelle on va essayer d'entrer à partir de ces deux chapitres. C'est un portail d'entrée de la pensée chrétienne qui est extrêmement ambitieux. Il faut savoir quand même que l'Épître aux Romains est à l'origine de notre histoire occidentale, au fond, et peut-être une des raisons de notre présence à deux ici ce soir, puisque le commentaire de l'Épître aux Romains par Luther a été ce qui a mis le feu aux poudres. Sa conception de la grâce, c'est d'ailleurs un texte vertigineux, magnifique, auquel j'adhère assez volontiers, parce que Luther fait partie de ces gens comme Paul ou Augustin, ou d'autres, ou Pascal, qui voit quand même dans le Christ une nouveauté radicale, et pas seulement une figure, un beau modèle qu'il faut imiter, etc., selon l'humanisme chrétien. Il y a chez Paul et chez Luther une très grande radicalité. L'Épître aux Romains a été commentée aussi par Karl Barth, si ça vous dit quelque chose. C'est un grand théologien réformé du XXe siècle qui a fait deux commentaires de l'Épître aux Romains. Et si je dis qu'Alain Badiou, philosophe athée qui vient du marxisme, a été toujours intrigué par l'Épître aux Romains, il voit dans Paul l'inventeur de l'universalisme, ou quelqu'un comme Giorgio Agamben, qui est un grand philosophe italien, qui se réclame de Michel Foucault, des travaux de Michel Foucault, etc., a écrit lui aussi un commentaire il y a 15 ans de l'Épître aux Romains, qui s'appelle « Le temps qui reste ». Donc vous voyez, grande fécondité, texte massif, texte très clivant, qui interroge la conscience humaine face à sa liberté, précisément, puisque c'est le thème de l'année. Donc voilà, je pense que ça valait la peine. C'est Marc qui a choisi de mettre ce texte au programme, comme on dit à l'université. Voilà, je le remercie d'y avoir pensé, parce que c'est évidemment un lieu pour nous pour méditer sur la liberté, même si ça n'est pas toujours simple de comprendre les subtilités de la dialectique de Paul. C'est un lieu quand même théologique important qu'il faut avoir frayé un petit peu, sans se contenter du saucissonnage que la liturgie, en tout cas dans l'Église catholique, en fait. On a tous en tête des textes très beaux, d'ailleurs c'est en particulier la péroraison du chapitre 8 que nous allons lire, « Rien ne pourra nous séparer de l'amour du Dieu vivant ». Je crois que ce sont des morceaux lyriques qu'il est bon d'avoir dans l'oreille et dans le cœur, mais aussi il faut voir sur quel débat tout cela résonne. Alors avant de lire le chapitre 7, je pense que Marc a quelque chose à nous dire.
Ben, bonsoir et puis bienvenue.
Bienvenue,
bienvenue chez vous. Donc oui, merci Jérôme pour cette introduction. Alors c'est vrai que l'Épître aux Romains, effectivement, et puis ce verset, la liberté glorieuse des enfants de Dieu au milieu du chapitre 8. Puis je me suis dit, bof, on peut quand même pas commencer que dans le chapitre 8. D'abord, il est peut-être trop connu et donc je me suis dit, on peut se payer le chapitre d'avant, mais on aurait dû prendre le chapitre 6 aussi, parce que cette question de la liberté, mais ça sera en devoir de vacances, et ensuite, voilà, en exercice pratique chez vous, de reprendre le chapitre 6, où ça se termine donc sur la libération du péché. Bon, mais comme on va retrouver ce thème, il est de nouveau creusé dans le chapitre 7, à propos de la libération du péché, libération de la loi, libération donc de la crainte de Dieu, libération de la mort. Il y a là des grandes choses, je crois, et qui méritent d'être étudiées, mais peut-être aussi, oui, comme tu disais, garder dans le cœur. Alors, je vais vivre votre nouveau groupe là avec une lecture spirituelle où on essaye de faire résonner ces textes dans le cœur. C'est vrai que là, on en fait une étude intellectuelle, mais ensuite, c'est fait pour qu'ensuite, on se laisse, je veux dire, travailler, interroger, vivifier par quelque chose qu'on découvrira peut-être entre les lignes dans ces textes ou à partir de ces textes. Alors, comment est-ce qu'on avance? Peut-être, là, c'est coupé en paragraphes, finalement, en petits chapitres par l'édition de la traduction œcuménique de la Bible. Peut-être qu'on peut prendre paragraphe par paragraphe, non?
Oui, juste peut-être un rappel de ce qui est avant, comme dans les feuilletons américains. Paul a développé l'idée de la loi du péché. Donc, il y a deux lois, au fond. Il y a la loi révélée, qui est la loi donnée à Dieu pour entrer en alliance, qui, entre parenthèses, d'ailleurs, pour les Juifs, est une source de bénédiction. On a une vision souvent très déformée par saint Paul de la loi. Mais la loi, pour un juif, c'est ce qui fait vivre, c'est ce qui donne à vivre, c'est ce qui permet de ne pas perdre son temps dans des chemins qui sont des impasses, etc. Donc la loi est quand même, surtout pour un pharisien comme Paul, qui a cru pendant des années que sa justice venait de sa conformité à la loi, de l'application de toutes les mitzvot, c'est-à-dire de tous les préceptes de la loi. C'est un homme qui a cru ça pendant 3 ou 4 décennies, que sa justification aux yeux de Dieu, c'est-à-dire son existence de juif juste aux yeux de Dieu, venait de cette loi qui le séparait du commun des mortels, des impurs, etc. Il faut bien voir le contexte. Et c'est précisément sa conversion à Jésus, à l'événement Jésus, à la nouveauté Jésus, qui fait qu'il y a un avant et un après, et qui rend cette loi, du coup, peut-être pas totalement caduque, mais elle ne peut plus prétendre accomplir les promesses qu'elle semblait vouloir tenir. Alors, juste dans les chapitres qui précèdent, il y a la fameuse affirmation de Paul, là où le péché a abondé, la grâce surabonde. Bon, ça, on est d'accord avec ça, il faut que le péché abonde, d'une certaine manière, il y a une bonne nouvelle du péché, parce que sans le péché, il n'y a pas la grâce, etc. Alors, il prévient évidemment les objections des gens, de ceux qui vont le lire, qui vont dire, ah ben, alors, continuons à pécher, puisque de toute façon, la grâce fera toujours un contrepoids beaucoup plus grand que le péché lui-même, puisque là où le péché abonde, la grâce surabonde. Et c'est là qu'il y a le fameux chapitre 6, qui précède juste avant, où il dit « Ah mais non, parce que vous avez été baptisés en Christ, et dans le Christ, vous êtes morts au péché. » Donc le baptême, la traversée, la plongée dans le mystère pascal de mort et de résurrection, est une mort au péché. Et donc, pour comprendre ce chapitre 7, qui parle précisément de cet homme nouveau, de cette vie nouvelle, il faut comprendre que c'est une vie baptismale, c'est-à-dire que nous sommes morts au péché. Et donc, effectivement, nous avons toujours des complicités avec le péché. C'est évident, le simple réalisme le confirme au quotidien. Mais pour Paul, le calcul qui consisterait à dire « restons pécheurs », puisque la grâce viendra compenser notre péché, est un mauvais calcul qui n'est pas la réponse attendue par Dieu à la grâce. La réponse à la grâce, c'est de vivre de cette vie baptismale et d'entrer dans cette nouvelle vie qui est la vie de foi et non plus la vie de loi. En plus, en français, c'est bien parce que foi et loi, il y a juste une consonne qui change. Et donc, ce sont deux régimes différents. Donc, on commence le chapitre 7 avec l'idée qu'il y a une mort au péché, qu'il compare d'ailleurs à un veuvage, c'est assez intéressant, vous allez voir, il dit, ben voilà, quand on est veuf, on peut se remarier, puisqu'on n'est plus...
On est libre, oui.
On est libéré du mariage par la mort. Et donc, par la mort du Christ, nous sommes aussi comme des veufs, nous sommes libérés du premier mariage, la première alliance, c'est intéressant, qui est la loi, et nous sommes capables de nous remarier. Alors c'est intéressant parce que l'analogie avec la mort fait que par moment le croyant est le veuf et par moment il est celui qui est mort, c'est-à-dire qu'il est celui qui est parti, qui est aussi libéré, entre parenthèses. Quand on est veuf, le veuf, celui qui reste, est libéré du mariage, mais celui qui est mort aussi. Donc vous allez voir dans le chapitre 7, le chrétien est à la fois celui qui est mort puis celui qui est veuf. Voilà.
Ça, c'est toujours le mythe de ces images, effectivement. Oui, oui, c'est toujours un peu. Des fois, ça peut être un peu scabreux, oui, oui. Mais là, Mais c'est vrai que cette idée de mariage, finalement, c'est l'alliance. Donc, il y avait l'alliance avec la loi. Et quand tu rappelais cette liberté, je place devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Donc, c'est vraiment l'alliance deutéronomiste. C'est on choisit entre la loi qui sert, effectivement, littéralement c'est marqué dans le Deutéronome, qui sert d'intelligence, pour sert de guide. Il y a la loi et on suit la loi et c'est ce qui sert de chemin. C'est le chemin de la vie, de la bénédiction, et si on s'en écarte, on est dans la mort et dans la malédiction. Donc c'est ça dont on parle finalement un peu ici, c'est la loi vue sous cet angle peut-être d'une alliance qui est sur lequel il pensait trouver la vie. Et donc là, c'est le chrétien qui est mort à cette façon, mort à ça. Donc il est, c'est-à-dire que c'était mort dans cette alliance, mort à cette alliance-là. C'est bon, cela dit, le chrétien n'est pas complètement mort non plus. Donc l'image est un peu curieuse, oui. Mais on remarque que c'est pas la loi qui est morte, en fait.
Non, la loi n'est
la
pas
loi
morte.
La loi reste vivante,
ouais.
Mais c'est plutôt la confiance dans la loi, c'est plutôt l'espérance dans la loi qui est morte, c'est ce lien qui est mort. Donc, bon, oui, l'image est un peu compliquée, mais bon, on va la
Lire,
découvrir.
ouais, ouais. Si quelqu'un veut
lire le premier paragraphe. Ouais,
à un certain moment dans la Bible, on dit que la loi est abolie.
Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir.
Dit Jésus.
Dit Jésus. Et Paul ira jusqu'à dire deux fois, d'ailleurs, dans l'Épître aux Galates et l'Épître aux Romains, un peu plus loin, que le Christ est la fin de la loi. Il est la cause finale. Il est l'horizon de la loi.
Quand on a le Christ, on n'a plus besoin de loi.
Alors, Paul, vous êtes paulinien, Paul, probablement, ira jusqu'à dire ça. On lui a reproché d'avoir un double langage, d'ailleurs, comme à Pierre, hein, parce que ce n'est pas facile. Il faut se mettre à leur place. C'était des gens qui étaient biculturels. Donc, Paul, à un moment, dit, mais moi, je veux bien rester sur... Je ne sais plus où il dit ça. Je veux bien rester sur l'ancienne loi, mais elle ne me sert plus à rien. Mais je veux bien jouer le jeu si ça choque pas les simples, si c'est pour donner un témoignage de la sainteté de la loi. Parce que pour lui, la loi est sainte. Elle
oui,
vient
mais...
de Dieu, mais elle est pédagogue. C'est-à-dire qu'à un moment, il faudrait pouvoir s'en passer, effectivement.
Oui, mais dans ce texte, il y a deux lois. La bonne, et puis la mauvaise, celle qui, où on se laisse envers les côtés par...
Non, il y a la loi de la lettre et puis il y a la loi de l'esprit. Mais donc ça exprime deux types d'alliances, finalement. Une alliance qui est basée sur la soumission, l'obéissance, et une alliance où on place son espérance là-dedans, finalement. Quelque part, c'est un peu une espérance dans l'homme, puisque c'est une espérance dans la performance de l'homme à se dominer lui-même et arriver à bien faire ce qui est marqué. Et puis, il y a la loi de l'esprit, c'est... Alors l'esprit, qu'est-ce que c'est? C'est ça le problème, c'est qu'en français, l'esprit, c'est pas très clair, quoi. On imagine un fantôme, on imagine quelque chose, je sais pas quoi. Là, c'est le souffle. Alors là aussi, c'est une image, hein, comme tout ça, c'est limite des images. C'est que c'est la dynamique de création de Dieu, finalement. C'est quelque chose qui est invisible comme un léger courant d'air, mais néanmoins qui peut avoir une action sur la matière, qui vient en contact, on peut sentir sur sa joue, ça peut indiquer une direction et ça peut même avoir une puissance profonde. Et donc c'est la dynamique d'évolution de Dieu, et donc c'est cette loi-là finalement.
Est-ce qu'il n'y a pas une difficulté qui vient de la définition de cette loi, la manière dont nous entendons communément la loi?
Mais si, oui, oui.
Et lui, la manière dont cette polyphonie de sens, de situation, où il parle de la loi comme ceci, de la loi comme cela, puis finalement, on est un peu paumé, quoi.
Non, c'est évident. Mais c'est pour ça, je pense que, parce que si parmi nous, il y a des gens qui connaissent mal le texte, je pense qu'il faudrait qu'on le lise un tout petit peu, juste parce que c'est évident qu'il joue sur le mot loi. Il le laisse entendre, d'ailleurs.
On pourrait remplacer par alliance, je parle, en fait, là, plutôt. Oui. Loi.
Anne, vous voulez bien lire le premier paragraphe. Le chrétien libéré de la loi.
Le chrétien libéré de la loi. Ou bien ignorez-vous, frères, je parle à des gens compétents en matière de loi, que la loi n'a autorisé sur l'homme sur l'homme qu'aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, la femme mariée est liée par une loi à un homme tant qu'il vit. Mais s'il vient à mourir, elle ne relève plus de la loi conjugale. Donc, si du vivant de son mari, elle appartient à un autre, elle sera appelée adultère. Mais si le mari vient à mourir, elle est libre à l'égard de la loi, en sorte qu'elle ne sera pas adultère en appartenant à un autre. Vous de même, mes frères, vous avez été mis à mort à l'égard de la loi par le corps du Christ pour appartenir à un autre, le ressusciter d'entre les morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. En effet, quand nous étions dans la chair, les passions pécheresses, se servant de la loi, agissaient en nos membres afin que nous portions des fruits pour la mort. Mais maintenant, morts à ce qui nous tenait captifs, nous avons été affranchis de la loi, de sorte que nous servons sous le régime nouveau de l'esprit et non plus sous le régime périmé de la lettre.
Voilà. Donc, deux régimes qui ne font pas sortir de la loi complètement. Ce sont deux modalités de vivre de la loi. À un autre moment, j'avais noté, je crois que c'est dans Corinthiens, il parle de la loi du Christ, pour parler de l'agapé. Mais il ne parle pas de la loi du Christ dans l'Épître aux Romains. Donc vous voyez, il y a deux manières de vivre de la loi, soit on la vit de manière spirituelle, soit on la vit de manière littérale. Mais je suis tout à fait d'accord pour dire que si on vit sous le régime spirituel, bien d'une certaine manière, ça conduit à relativiser la lettre de la loi et donc les préceptes de la loi, les fameux 613 mitzvot, les 613 observances, les 613 préceptes de la loi, deviennent l'être, ils ne sont plus esprit d'une certaine manière. Et plus que ça, il est évident que comme il s'adresse à des Romains qui vivent dans une ville qui est très marquée par le génie juridique romain, quand il parle de la loi, nomos en grec, c'est pas seulement la Torah, c'est aussi toute loi d'une certaine manière, parce que toute loi peut infantiliser si le sujet considère que c'est sa conformité à la loi qui le sauve. Il met en garde en disant qu'effectivement, ça n'est pas la conformité à une loi, qu'elle soit juive, qu'elle soit grecque ou qu'elle soit romaine, qui va sauver. Et plus encore que cela, je pense même, parce qu'il était de Tarse, vous savez, Tarse, je ne sais pas si vous voyez, c'est au sud de la Turquie, c'était un port, enfin, c'était une ville enfin, qui avait, comme Rome, qui avait un port pas très loin, donc au contact de toute la culture grecque de l'époque. Et donc, lui, pharisien de Tarse, il a baigné dans une culture assez cosmopolite. Et Tarse avait été la ville de Chrysippe, un des grands philosophes stoïciens. Et donc, Paul connaissait la pensée stoïcienne, qui est la grande pensée de l'époque. On l'oublie toujours, mais parce qu'on dit toujours c'était le néoplatonisme, etc. Pas du tout, le néoplatonisme, c'est plus tard. Mais à l'époque, la pensée qui fait autorité, le prestige philosophique dans le monde méditerranéen, c'est le stoïcisme. Et l'une des grandes idées du stoïcisme, c'est la loi naturelle. La fameuse loi naturelle que nos églises invoquent quelquefois comme étant leur bien propre, pas du tout. La loi naturelle, l'idée de loi naturelle vient du stoïcisme. C'est l'idée d'une loi que la raison humaine, le logos humain, peut produire rationnellement en adhérant au logos qui conduit le monde, qui est une espèce de providence. Tout ça est très très païen. Cette notion de loi naturelle est vraiment très païenne, elle est stoïcienne, et on considère que c'est l'une des sources de la Déclaration des droits de l'homme, notamment la Déclaration universelle de 48. On dit souvent que les droits de l'homme sont d'origine chrétienne, mais pas seulement, ils sont aussi d'origine stoïcienne. Donc Paul connaît aussi cette notion de loi naturelle. Donc il connaît la loi romaine, il connaît les lois des cités grecques, il connaît la loi naturelle stoïcienne et il connaît la Torah. Et il s'aperçoit que tout ça, comparé à ce que lui a vécu, c'est-à-dire un contact personnel avec le Christ et avec l'événement historique décisif du Christ dans sa Pâque, dans sa mort et sa résurrection, tout ça, voilà. Tout ça n'est pas à la hauteur. Alors c'est ce qu'il va dire par la suite. Donc pour comprendre l'histoire du veuvage et de la mort, il faut avoir lu effectivement le chapitre 6. Donc ce sera votre devoir de vacances, effectivement, de comprendre l'idée de la mort au péché. Probablement a-t-il une vision très ambitieuse et très, c'est ce que disent tous les spécialistes de Paul, c'est qu'ils considèrent que tout est joué dans le Christ. Or, nous voyons bien à quel point nous peinons, hein. Que voilà, l'idée que tout est joué dans le baptême une fois pour toutes, oui, sur un certain plan, hein, mais sur un autre plan, voilà, il a peut-être un peu sous-estimé les pesanteurs de l'ancienne loi.
Mais c'est pas tout à fait le baptême en tant que rite, c'est le baptême, c'est on est baptisé en Christ, on est plongé en Christ, c'est-à-dire dans l'humanité comme corps du Christ, ou alors Christ comme prémisse de quelque chose. Mais ça, on le verra peut-être un peu plus loin, et en particulier dans cette image, dans le chapitre 8, je crois, c'est fin du 7 ou 8, c'est comme un accouchement, c'est-à-dire qu'il y a du déjà là, l'enfant, il y a déjà une humanité nouvelle qui est là, qui est vivante, et qui est dans un gémissement d'accouchement, en fait. Donc, on a du déjà là et du pas encore. Mais déjà, dans ce chapitre-là, dans ce paragraphe qu'on a lu, il y a quelques petites choses, à mon avis, qu'on peut déjà souligner dans la façon dont le salut arrive, finalement. Parce que si vous voyez, dans la loi, dans l'obéissance, effectivement, il s'agit de vraiment se brider notre liberté, comme brider, puisque tout est décidé par la loi dans des détails infimes de l'existence. Et c'est finalement l'espérance de vie est là-dedans, peut-être parce qu'il y a un comptage des bons points et des mauvais points quelque part, dans un grand registre quelque part. Donc finalement, le lieu du salut, c'est une sorte de livre de vie dans lequel seraient comptés les bons points et les mauvais points. Et puis l'effort de salut, c'est l'effort du croyant qui va faire bien attention de rester les pieds dans les clous pour gagner ses bons points et pour pas trop accumuler de mauvais. Là, on voit que c'est autre chose, parce que le ressuscité d'entre les morts, c'est Dieu qui est acteur de cette nouveauté de vie, finalement. Et quand on dit on est plongé dans la mort du Christ, on est dans une nouveauté de vie avec lui. Et donc on est on est soulevé, finalement, on est ressuscité. Donc l'acteur du salut, c'est pas l'homme à faire attention à sa voix, c'est Dieu qui ressuscite le Christ et qui nous ressuscite aussi. Et donc finalement, l'esprit, c'est l'esprit de Dieu. Bon, là, il y a une majuscule, mais bien sûr, dans le grec, il n'y a pas de majuscule et de minuscule, enfin, il n'y a que des majuscules. Donc, mais là, c'est clairement l'esprit de Dieu, c'est-à-dire c'est la dynamique d'évolution de Dieu qui nous touche. Donc, le salut, c'est plus simplement une observance de l'homme, mais c'est une transformation de l'homme, en fait. Et ce n'est pas l'histoire de bon point ou de je ne sais pas quoi, c'est vraiment un supplément d'être et de création. Donc on est dans tout à fait un autre régime. Effectivement, c'est une autre logique de salut. Il s'agit de recevoir cette transformation. Et quand il dit que c'est comme un mariage, il y a l'idée, oui, d'une alliance basée sur l'amour, sur le choix, sur la fidélité, un à un. C'est un peu ça qui nous est proposé, d'être dans cette alliance, cet amour, ce choix d'alliance, de fidélité. Et puis l'esprit qui est donné, on le verra peut-être après, je pense mieux, mais en même temps c'est l'esprit qui nous transforme. J'allais dire individuellement, il y aura du collectif qui va venir après, quand on est co-héritier, ensemble. Mais là c'est l'esprit déjà qui transforme chacun, mais c'est aussi l'esprit qui est donné. C'est-à-dire que c'est pas simplement un esprit qui agit sur nous et puis qui se retire, qui nous a rendus plus vivants et puis qui ensuite le boulot fait s'en va. Il y a ce travail de Dieu en nous qui nous ressuscite comme il a ressuscité Christ, fait passer de la mort à la vie. On a aussi choisi un peu ce texte parce qu'on est dans le temps de préparation de Pâques, c'est vrai. Mais c'est aussi un esprit qui est donné et qui reste en nous et qui fait de nous des prophètes. Et c'est là qu'il y a une libération aussi, c'est que c'est plus simplement la loi qui est donnée une fois pour toutes et qui est marquée dans la lettre, c'est la personne qui va être source de loi, de paroles nouvelles finalement. Et ça, lors de notre baptême, au sens du rite, pas au sens de la plongée dans le Christ. On rappelle que le chrétien est fait prêtre, prophète et roi, si vous voulez. Donc oui, c'est l'idée que l'esprit est donné à chacun. Et donc du coup, on est dans une, on peut chacun, je dirais, inventer, être source de Torah dans un sens. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est immense. En même temps, je pense pas que donc Badiou ait raison. C'est pas le Paul qui invente l'universalisme du tout. C'est déjà dans les promesses. Il devait pas avoir lu l'Ancien Testament, ce monsieur, mais c'est déjà la promesse qui est donnée à Abraham en Genèse 12, et puis c'est déjà la promesse qui est donnée dans tous les grands prophètes, où Israël est phare des nations, lumière des nations, et finalement toute personne, grande comme petite, de toutes les nations, recevra l'Esprit et sera prophète. C'est un peu l'objectif du truc, et c'est ce qu'accomplit le Christ, c'est ce qui était attendu de tous à l'époque, pas simplement de monsieur Popol qui tout d'un coup invente un universalisme que le Christ n'aurait pas imaginé une seconde. À mon avis, c'est tout à fait exagéré. Alors ensuite, c'est lui qui le réalise dans un certain sens, bien qu'effectivement Jésus c'est aussi adressé à un centurion, à une samaritaine. Bon, samaritaine encore, c'est aussi abrahamique, hein, mais ou aussi bien à une cananéenne, ou je ne sais pas quoi. Donc quand même. Alors pour ce chapitre, ces petits paragraphes, ça va ou
Oui. Juste sur Badiou, je pense que ce qui le frappe, c'est que ça, c'est un aparté. Je pense que c'est la capacité d'extraire la vérité d'une tradition singulière ou particulière. Et les prophètes restent encore quand même très ancrés dans. Et lui, ce qui l'intéresse, c'est ça, c'est l'universel concret, c'est-à-dire la singularité qui, à partir de sa singularité elle-même, voilà, fait éclater. C'est un peu ce que dit Abdennour Bidar, là, dont on parle beaucoup actuellement, hein, sur la notion de fraternité qui libère de la fratrie, justement. Et la foi qui libère des croyances qui sont toujours aussi particulières, qui sont attachées d'appartenance. Et donc ce mouvement-là, il voit quand même dans saint Paul un jalon assez exceptionnel.
Historique en tout cas.
Et pas seulement dans la continuité, un jalon historique.
Ouais, historique, ouais. Concrètement, c'est vrai qu'il y a une explosion dans les milieux de développement dans des milieux païens, c'est clair, du christianisme. Mais le programme d'universalisme est complètement inscrit dans le projet abrahamique, de toute façon, et dans le projet Christ, évidemment.
Et l'alliance avec Noé qui est une alliance universelle.
L'alliance avec Noé, ou alors le fait de dire effectivement qu'au début il y a un seul homme et une seule femme, donc il y a bien sûr un projet là universel. Et puis bon, oui, non, tout à fait.
Alors, on va continuer à lire. Je parlais de dialectique tout à l'heure, évidemment c'est un mot un peu intimidant. Simplement, il y a une opposition quand même, et je vous invite à avoir toujours en tête quand on lit l'Épître aux Romains, donc il y a l'opposition dont on a parlé entre loi
et esprit,
et foi.
Ou loi et esprit, là, non?
Entre chair, justement, je prends les couples
de notions. Mais là, dans ce chapitre, c'est quoi? C'est loi? C'est selon la loi et selon l'esprit, non?
Selon la loi, selon l'esprit, oui. Mais selon la lettre. Il y a lettre et esprit.
La lettre et esprit.
Il y a loi et foi. Il y a chair et esprit, également, parce que esprit s'oppose à lettre, mais esprit s'oppose aussi à chair.
Et c'est selon la chair.
Donc la lettre est chair, la lettre est charnelle. Ouais. D'où l'idée que la loi elle-même est charnelle. Vous connaissez peut-être cette expression qui surprend toujours, parce qu'on se dit, mon Dieu, mais du coup, quelle sévérité. Parce que la chair chez Paul, ce n'est pas la chair chez Jean. Chez Jean, la chair, c'est la finitude, c'est la condition humaine. La chair chez Paul, c'est quand même la chair en tant qu'elle incline à la rupture d'alliance, en tant qu'elle est égoïste, en tant qu'elle s'oppose à Dieu. Hein. C'est presque l'équivalent du monde chez saint Jean. Donc la chair, dire que la loi est charnelle, c'est quand même un jugement assez sévère qui va effectivement dans le sens de ce que vous disiez. Donc, foi, loi, esprit, chair, esprit, lettre. Et il y a une autre opposition, c'est évidemment grâce et œuvre, qui n'intervient pas ici. Mais évidemment, j'ai parlé de Luther, j'ai parlé de toute une tradition occidentale qui oppose le régime de la grâce et le régime des œuvres. C'est-à-dire, il y aurait une justice qui viendrait de l'accomplissement des œuvres, des mérites personnels. C'était la justice pharisienne, en gros, pour caricaturer. Et il y a une justice qui vient par grâce. Ça, c'est la question de la justification. Je ne peux pas m'auto-justifier, même si on passe nos vies à le faire. Eh bien, à un moment, il faut accepter que la justification vienne de quelqu'un d'autre que nous. Que notre justice, c'est dur à comprendre, ça. Hein. Mais je pense qu'on le comprend bien si on s'aperçoit combien de temps et de salive ou d'encre ou aujourd'hui de mail on occupe à justifier ce qu'on fait. Parce qu'au fond, derrière tout ça, les mots ont quand même un sens. On passe beaucoup de temps à s'auto-justifier dans la vie communautaire, dans la vie de couple, dans la vie familiale, etc. Or, à un moment, l'expérience religieuse profonde, c'est découvrir qu'on ne peut pas. Si, on peut pour des broutilles, mais sur des choses fondamentales, sur le simple fait qu'on existe et qu'on a le droit d'exister comme sujet et de dire je veux, j'aime, etc. Il y a un moment où on ne peut pas, quand on traverse l'expérience du péché, on découvre que le pardon ne peut venir que d'ailleurs. C'est ça l'expérience de la grâce, c'est extraordinaire. Ça, c'est le génie de Luther d'avoir
ou
mis ça.
Quand...
Ou d'Augustin, bien sûr, évidemment, évidemment. Mais Augustin, c'est donc c'est un contexte un peu plus polémique, mais bien sûr. Et donc voilà, opposer les œuvres et la grâce, découvrir que la justice ne viendra pas seulement du fait que je me fais justice à moi-même ou que je fais des œuvres justes. C'est très bien, hein, les BA des scouts par exemple, les bonnes actions qu'on accumule comme des bons points, ou bien est-ce que ça ne vient pas d'ailleurs? Voilà, il faut avoir en tête, c'est ça le paysage conceptuel derrière ça. Vous avez... D'accord. On lit, ce deuxième paragraphe.
Le rôle de la loi.
David, peut-être, puis ensuite. Qu'est-ce à dire?
Qu'est-ce à dire? La loi serait-elle péché? Certes non, mais je n'ai connu le péché que par la loi. Ainsi, je n'aurais pas connu la convoitise si la loi l'avait dit « Tu ne convoiteras pas ». Saisissant l'occasion, le péché a produit en moi toutes sortes de convoitises par le moyen du commandement. Car sans loi, le péché est chose morte. Jadis, en l'absence de loi, je vivais. Mais le commandement est venu, le péché a pris vie, et moi je suis mort. Le commandement qui doit mener à la vie s'est trouvé pour moi mener à la mort. Car le péché, saisissant l'occasion, m'a séduit par le moyen du commandement, et par lui m'a donné la mort. Ainsi donc, la loi est sainte, et le commandement saint, juste et bon.
Oui, alors il faudrait enchaîner avec juste le 13. Alors, ce qui est bon est-il devenu cause de mort pour moi? Parce que sinon, on a l'impression qu'il se contredit complètement. Parce qu'en fait, il dit, voilà, la loi, c'est effrayant, elle démasque le péché. Il n'y aurait même pas de péché sans loi. Et puis, après, il dit, mais la loi est sainte. Bon, alors, on voit bien le pauvre Paul qu'il est comme nous. Il est comme nous. Il essaie de tenir... de ne pas céder sur une chose et de ne pas céder sur une autre. Donc c'est ça la tension géniale de ce texte. C'est ça la dialectique, c'est de ne pas céder sur... D'un côté, il y a le péché qui existe, et puis de l'autre, la loi ne peut pas être accusée de simplement de créer le péché. Parce qu'en gros, c'est quand même ça qu'il dit. Hein, on connaît tous ça, cette espèce d'attirance pour la transgression. Au fond, si on ne nous interdit pas quelque chose, ça ne nous attire pas. Et à partir du moment où il y a un précepte qui nous dit « ne fais pas ça », ah, voilà. Il y a cette maladie en nous qui rend la transgression plus désirable et l'objet d'une convoitise.
C'est pas une maladie, c'est plutôt quelque chose, une dynamique qui nous fait aller au-delà de la loi, justement.
Ah oui, mais en même temps, il dit « mais c'est terrible parce que la loi... » Elle démasque le péché, elle l'identifie, mais elle ne donne pas la capacité de se guérir. C'est-à-dire, elle ne donne pas la capacité de sortir de cette fascination pour la transgression. Elle dit la limite, elle dit l'interdit, elle le montre, elle l'exhibe, elle le nomme, elle l'identifie, mais elle ne donne pas la force intérieure pour aller au-delà de notre faiblesse. Et au contraire, même, elle la rend désirable. Donc, elle nous rend schizophrène, d'une certaine manière. C'est ce qu'il pointe, sans aller jusqu'à dire tout à fait ça, parce qu'à d'autres endroits, il dit, mais quand même, du temps où il n'y avait pas la loi, donc avant la Torah, il y avait quand même le péché, dit-il. Il ne dit pas que c'était le jardin d'Éden. Il y a quand même eu tout un temps... entre la chute et le don de la loi, où l'homme était quand même pécheur. Ce qui prouve bien que pour lui, il y a une loi en amont de la loi littérale. Alors, laquelle est sainte? Est-ce que c'est la loi littérale?
J'ai l'impression que bon, là, il prend en jeu, finalement, l'idée de la comptabilité des péchés et des bonnes œuvres, finalement. Et il dit, si vous êtes dans cette logique-là, tant qu'il n'y avait pas de loi... Vous pouviez dire, je ne suis pas au courant du truc. Donc finalement, dans la comptabilité, c'est bon. Puisque bon, il n'y a pas de règle du jeu, il n'y a pas de transgression. À partir du moment où on met une règle du jeu, il dit, bah, je veux dire, vous êtes dans la règle du jeu. Donc on vous dit, tu ne convoiteras pas. Bah oui, et puis bim, on convoite. Donc, tant qu'on ne savait pas qu'il ne fallait pas convoiter, à la limite, ça ne comptait pas comme un mauvais point. Mais à partir du moment où on dit, c'est comme ça que ça marche. La loi, en disant, tu ne convoiteras pas, elle nous dit quelque chose. Donc, il choisit exprès le dixième, la dixième des dix paroles. Dans les dix tables de la loi, les premières, ça va assez bien. Tu honoreras Dieu, bon, on y arrive quand même à peu près, raisonnablement. Tu ne tueras pas ton prochain. Bon, ça peut arriver d'avoir une parole blessante qui peut tuer un peu l'autre, c'est vrai. Mais on essaye de ne pas trop tuer son prochain, on essaye de ne pas trop commettre l'adultère, on y arrive quand même bien. Pas dire de mensonge contre son prochain, on en crève d'envie, il n'y a rien de plus drôle, mais, mais on se retient.
C'est le huitième, ça, le faux Quoi? Témoignage, c'est le huitième commandement.
Voilà. Enfin, enfin bref, on y arrive après, on arrive au dixième, tu ne convoiteras rien. Là, ça rigole moins, parce que si vous voulez, comment on peut être maître de ça? Et donc c'est là que Paul, je trouve, est assez fin, c'est qu'il montre non seulement... Alors, on dit tu ne tueras pas, c'est quand même une bonne idée, on ne peut pas être contre ça. Surtout, tu ne tueras pas, point, c'est quand même génial ce commandement, c'est absolu. Voilà, on a beau, on peut le tordre un petit peu en disant oui, c'est pas le. Enfin, bref. Mais le, tu ne convoiteras pas ça, on ne peut pas, personne n'y arrive. Et donc, ça renvoie au fait que, ben, qu'on n'y arrive pas. Et ça, il va le développer après, mais c'est là qu'il ouvre à la réalité de la question. C'est qu'on a besoin, comme le disait Jérôme, on a besoin d'un supplément de force, finalement, qui nous rende capables de ne pas convoiter. Et ça, la loi est incapable de ça. Elle nous fait prendre conscience du péché. Ça, c'est pas inutile, quand même. Mais pour compter que Dieu va la grâce, pour compter sur la grâce et pour compter sur un supplément, pour l'esprit, qui va nous élever et peut-être nous rendre plus forts. Mais pour ça, le problème de la loi, c'est quand on est dans cette comptabilité, et il va en parler après. Si on est là-dedans, prenant conscience du péché, on se dit mince, mais en fait, Dieu va me griller sur place parce que je suis un horrible pécheur. Et donc, je mérite la mort, en fait. Il est dans la crainte de Dieu, l'homme, à ce moment-là. Il est dans cette trouille, et du coup, il se barricade contre Dieu. Et donc, dans un sens, il est fermé à l'esprit, parce qu'il a peur, il est dans la peur de Dieu, dans la crainte de Dieu. Et Paul, il dit non, on n'est plus sous la crainte, on est sous l'amour. Et donc, il n'y a rien à craindre de Dieu, on est dans une autre logique. Et c'est là, à mon avis, qu'il critique le régime de la loi. C'est que, ça ne nous aide pas à nous rendre meilleurs, ça c'est pas créateur en nous. Ça ne nous rend pas plus forts, ça ne nous rend pas plus prophètes, ça nous rend, voilà, donc c'est pas très efficace. Et deuxièmement, si on est dans la crainte de Dieu, ben on va être barricadé contre l'esprit, et donc c'est pas bon. Et effectivement, comme tu le disais, Jérôme, là, avec l'idée de la convoitise, d'abord c'est le dixième des dix paroles, là effectivement c'est un commandement, mais ça renvoie à la première des dix paroles, qui n'est pas un commandement. On dit les dix commandements, non, c'est les dix paroles, et la première des dix paroles, je ne sais pas pourquoi les chrétiens ne la mettent pas comme première des dix paroles, c'est plutôt les juifs, les chrétiens, à mon avis, là-dessus, il faut réviser les décalogues. La première des dix paroles, c'est « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte ». Donc ce n'est pas un commandement, ce n'est pas les dix commandements, c'est les dix paroles dont la première n'est pas un commandement, en fait, mais l'annonce d'une libération qui est déjà donnée. Donc, ils disent, mais mes cocos, vous oubliez finalement que le dixième, il renvoie au premier, nous renvoyant au besoin de cette libération qui vient de Dieu, donc à son esprit qui nous fait sortir de la condition de l'homme ancien. Il nous renvoie à une résurrection à attendre dans un sens. Voilà. Et ça, je crois que c'est quand même important. Et effectivement, là, tu as raison, ça rappelle cette histoire de la convoitise qui est à la porte, qui me séduit par les moyens. En fait, on est devant l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et on est là, je dirais, donc Adam et Ève, c'est nous. Voilà, c'est pas le passé, c'est le présent. Et qui va nous rendre forts, finalement, face à cette convoitise de se prendre soi-même pour Dieu, c'est-à-dire de penser se sauver par soi-même. Voilà. Ben, en fait, oui. C'est que l'esprit.
Tout à fait. Et il ne faut jamais effectivement oublier que le texte de la Genèse, hein, le texte de la que nous appelons de la chute, mais les Juifs accordent moins d'importance à ce texte, en fait, a été écrit après l'expérience d'Israël qui vit de la Torah. Hein. Ce sont des textes du 6e siècle, alors que la loi existe déjà. Hein, il faut toujours avoir ça en tête, c'est-à-dire que le texte de la convoitise d'Adam et Ève est un texte qui résonne sur...
Le décalogue.
Sur le décalogue, bien sûr, et sur le fait que précisément, même lorsqu'on se croit injuste parce qu'on honore son père et sa mère, qu'on ne tue pas, etc., il y a toujours la petite chose, effectivement, que démasque le dixième commandement, la convoitise, et pas la convoitise de la maison du voisin parce qu'elle est plus grande, ou de la piscine, etc. Mais une petite chose infime. C'est ça qui est terrible, c'est le fruit. C'est-à-dire qu'ils ont droit à tout, mais c'est précisément ceux qu'ils n'ont pas qui les démangent et qui perturbent leur sommeil. Et ça, c'est terrible. Ça, c'est probablement le fruit d'une observation de l'être humain qui est impressionnant. Et c'est précisément là que le péché attend. Hein. Alors,
et la première personne ici est intéressante, parce que ce n'est pas simplement Paul qui parle. Il nous appelle à une introspection en disant, à parler en jeu, je crois. Et ça, c'est quand même intéressant. On n'est plus dans la leçon. On est dit, mais ce jeu, c'est moi, Paul. Et c'est, bon, est-ce que c'est le lecteur aussi? C'est la question. Ça nous renvoie à nous-mêmes dans une introspection pour rentrer en nous-mêmes et voir confesser finalement cette incapacité à nous sauver par nous-mêmes et donc à compter sur l'esprit.
On lit la suite, Chantal.
L'homme qui manquait du péché. Alors, ce qui est bon est-il devenu cause de mort pour moi? Certainement. Mais c'est le péché. En se servant de ce qui est bon, il m'a donné la mort, afin qu'il fût manifesté comme péché et qu'il apparût dans toute sa violence de péché par le moyen du commandement. Nous savons certes que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu comme esclave au péché. Effectivement, je ne comprends rien ce que je fais. Ce que je veux, je ne le fais pas, mais ce que je hais, je le fais. Or, si ce que je ne veux pas, je le fais, je suis d'accord avec la loi et reconnais qu'elle est bonne. Ce n'est donc pas moi qui agis ainsi, mais le péché qui habite en moi. Car je sais qu'en moi, je veux dire dans ma chair, le bien n'habite pas. Vouloir le bien est à ma portée, mais non pas l'accomplir. Puisque le bien que je veux, je ne le fais pas, et le mal que je ne veux pas, je le fais. Or, si ce que je ne veux pas, je le fais, ce n'est pas moi qui agis, mais le péché qui habite en moi. Moi qui veux faire le bien, je constate donc cette loi, c'est le mal qui est à ma portée. Car je prends plaisir à la loi de Dieu en tant qu'homme intérieur. Mais dans mes membres, je découvre une autre loi qui combat contre la loi que ratifie mon intelligence. Elle fait de moi le prisonnier de la loi du péché qui est dans mes membres. Malheureux homme que je suis, qui me délivrera de ce corps qui appartient à la mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Me voilà donc à la fois assujetti par l'intelligence à la voix de Dieu et par la chair à la voix du péché.
Alors, texte célébrissime, homo duplex, l'homme est double. C'est un thème que l'on retrouve dans la littérature profane aussi, hein, cette espèce de duplicité du cœur de l'homme. Il y a un vers célèbre d'Ovide qu'on cite toujours, « Video meliora, deteriora sequor », je vois les choses les meilleures, mais je suis les moins bonnes, je mets en œuvre les moins bonnes. Alors là, vous voyez que c'est très fort. J'imagine que quelqu'un qui ignorerait tout de la tradition chrétienne qui débarquerait dans notre réunion, là, en entendant parler comme ça du péché, « Je suis charnel, vendu comme esclave au péché, etc. » ça ne serait pas simple, parce que la notion de péché, c'est-à-dire qui n'est pas seulement une faute morale, qui est une rupture de l'alliance avec Dieu, qui est un drame. Pour un homme nourri de culture biblique, c'est évidemment un drame. C'est la perte de la source, la perte de ce qui nous maintient dans l'être, c'est-à-dire la communion avec Dieu. C'est ça le péché, c'est la communion avec Dieu qui s'obscurcit, qui se trouble, qui devient même une coupure, à tel point que Dieu devient l'objet de dégoût. Et on a tous en tête peut-être aussi dans les confessions d'Augustin des passages assez semblables, où il montre l'attirance du péché, de la vie désordonnée, de la vie qui repose sur une autonomie illusoire. Parce que pour Augustin, c'est ça, le péché, c'est le fait de se couper tellement de Dieu qu'on pense que l'indépendance de l'homme est la source d'une ivresse, d'une toute-puissance, d'une volonté de puissance, de ce que les auteurs tragiques appellent l'hubris, vous savez, cette espèce de démesure qui fait qu'on devient un dieu. On ne dépend plus de personne et donc on peut édicter sa propre loi. C'est pour ça qu'il parle d'une loi du péché, vous avez vu, hein, dans mes membres, je découvre une autre loi. C'est la loi de l'autonomie radicale qui est coupée de la loi, alors que ce soit la Torah ou la loi de l'esprit. Là, je veux dire, c'est... Voilà. Alors, évidemment, c'est un homme, c'est un méridional. On peut faire une lecture assez sexuelle de ce texte. Hein. Beaucoup ne se sont pas privés de le faire. Quand on parle du péché de chair, beaucoup de gens ne pensent qu'à ça, d'ailleurs, si je puis dire. Mais la chair chez Paul, c'est bien autre chose. C'est l'égoïsme, en fait. On ne sort jamais du corps. Hein. Il ne faut jamais entendre ça à la grecque. Il n'y a pas de dualisme, là. Hein. Il n'y a pas la chair qui serait le corps et puis l'esprit qui serait l'âme. Hein. Il n'y a pas de dualisme grec. Il n'y a pas l'idée que le corps est un tombeau pour l'âme, etc. On pourrait être tenté de croire ça, de faire une lecture un peu platonicienne. En fait, non, pour un juif, certes teinté de culture gréco-romaine, mais pour un juif, on ne sort pas du corps, c'est le corps qui est la réalité. Mais il y a deux façons de vivre le corps, une façon spirituelle ou une façon charnelle, justement, qui est enfermante et qui conduit à la mort. Donc soit on est du côté de la vie, de l'esprit, de Dieu, soit on est du côté de la mort, du péché, et il met quand même la loi... la Torah du côté de la mort. Hein. Même s'il dit qu'elle est sainte, il passe son temps, c'est des prétéritions, il passe son temps à dire elle est sainte, elle est bonne, elle vient de Dieu, etc. Mais quand même, il la met du côté de la mort, puisque c'est elle qui démasque nos ambiguïtés. Et vous voyez que malgré tout, malgré le règne de l'esprit, l'ambiguïté demeure. Et il y a ce drame intérieur qui fait que quand on est un peu comme Paul ou comme Augustin ou comme Luther, la vie, la vie chrétienne est une inquiétude. Beaucoup de gens l'ont dit d'ailleurs, que la vie chrétienne est une inquiétude, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de repos possible. C'est un combat, il y a un dialogue, quelquefois le dialogue est plus ou moins apaisé, mais il y a quand même, on est toujours un peu en guerre, et donc on ne peut pas compter sur des techniques ou sur du coaching, ou sur je ne sais quelle galipette, comment dire, ou yogique, ou je ne sais quoi. Voilà, on ne peut pas vraiment être en paix. La paix, la source de la paix, elle vient de quelqu'un d'autre, et elle va venir du Christ, précisément.
Mais là, j'ai l'impression que le péché, finalement, c'est plutôt comme une aliénation, c'est-à-dire qu'il présente le péché comme quelque chose qui habite en moi et qui agit en moi malgré moi. C'est pas vraiment moi. Il y a quelque chose qui agit en moi sans que ce soit vraiment moi. Et donc, il y a une aliénation, finalement. Et donc, le salut de Dieu, il vient non pas pour me rendre autre que ce que je suis, mais plutôt pour me formater, voilà, à l'image du Christ, par exemple, hein, qu'on soit comme formaté dans un moule. Mais au contraire, c'est pour me libérer, finalement, libérer, parce que, je retrouve ce que tu disais, c'est intéressant sur le stoïcien, parce que là, on retrouve la traduction met au verset 23, là, vous voyez, Une autre loi qui combat contre la loi que ratifie mon intelligence. Non, c'est la loi de mon intelligence, en fait. Donc, y a vraiment une conscience, mon intelligence, une conscience intérieure, une intelligence perso, qui est en fait bonne. Mais en moi, il y a comme une aliénation qui fait que ce bon moi ne peut pas s'exprimer. Et donc, finalement...
Tu es gnostique, hein, ton compte est bon. Parce que
non, mais
pour moi,
c'est pas ce qui est marqué là. C'est pas ce qui est marqué.
Oui, mais parce qu'il est aux prises avec le langage et qu'on voit bien qu'il.
Bah oui, mais c'est ce qui est marqué.
Oui.
C'est ce qui est marqué. Je sais pas si c'est gnostique, mais.
Moi, je pense que quelqu'un qui fait le mal fait le mal. C'est là, il est responsable et c'est ce qu'il voudra dire. Il y a une aliénation, bien sûr. Le récit de la Genèse, c'est ça. L'idée du serpent, c'est l'idée de dire que c'est ni l'homme ni Dieu qui est tout à fait responsable. Mais c'est un peu les deux.
Oui, mais oui, sauf que si vous voulez, c'est vrai que le péché là, il le personnifie. Donc c'est pas que ce soit des démons. D'ailleurs, quand Jésus chasse des 7 démons de quelqu'un ou une myriade, une légion de démons de Monsieur Légion, bien sûr, c'est une façon de parler. Et le démon n'est pas une sorte de créature, une bête, quelque chose, je sais pas quoi, qui viendrait infester l'humain. C'est une dimension de l'humain, bien sûr, et une dimension de nous-mêmes, comme Satan d'ailleurs. Satan n'est pas une sorte de pouvoir maléfique transcendant. Il y a du satanique dans l'homme, c'est une composante de ce que nous sommes. Mais là, moi je reconnais bien, quand même dans l'aliénation, ça peut être l'idolâtrie de soi-même, ça peut être l'hubris, effectivement. Mais je trouve que c'est quand même assez beau de dire « Ce dont je veux te débarrasser par cette puissance de libération qui est en Christ », c'était quelque chose qui n'était pas vraiment toi-même. Et là, je crois qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de la grâce de Dieu qui est dit, voilà, c'est-à-dire que voilà, Dieu ne nous en veut pas d'être comme ça. Ce n'est pas vraiment nous, finalement, quand nous choisissons le mal. C'est comme Jésus sur la croix, il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc, ils ne sont pas ce qu'ils font, en fait. Et il y a là quelque chose qui est une bienveillance radicale, finalement, en disant, mais c'est pas tout, ça ne te ressemble pas de faire ça. C'est pas ton bon fond. Et donc, il y a l'idée. Oui.
On pourrait peut-être dire, plutôt au lieu de dire aliénation, est-ce qu'on pourrait pas dire tension? Même si on a péché un moment, il y a une tension permanente pour n'importe qui.
Oui.
Ça me semble. Parce qu'on n'est pas aliéné.
Oui. Moi, je préférerais au sens où, par exemple, dans d'autres traditions religieuses, on dirait le passage du moi au soi. Vous savez, c'est-à-dire qui est un vrai moi. Le moi étant toujours un peu effectivement aliéné, mais pas par un alien.
Pas par un démon
pas
extérieur.
Pas par un autre, mais au fond, le moi, l'accès du sujet à lui-même, à son identité, n'est jamais donné. C'est-à-dire, où il est donné par grâce, mais il est jamais premier. C'est-à-dire qu'il y aurait un passage du moi au soi, où le sujet, c'est d'ailleurs tout de la... le langage aussi de la kénose, c'est-à-dire qu'il faut se vider de son moi. Hein, c'est pour ça que le moi est haïssable hein, pour les moralistes français du XVIIe siècle, pour Pascal, etc. Il faut se vider de son moi pour que le vrai sujet, pour que le soi puisse advenir, avec toujours le risque, évidemment, de tomber dans une autre aliénation, à une institution religieuse, par exemple. On va dire, bah, c'est mon obéissance à ma supérieure ou à mon supérieur qui est ma vraie liberté. Alors là, c'est pervers. Moi, je préfère effectivement l'idée qu'il y a une tension. C'est-à-dire que le moi, on n'arrive jamais à le déraciner. Et tant mieux, parce que ce moi, il a le droit aussi d'exister d'une certaine manière. Donc, distinguer sans séparer, on y revient toujours au principe de Calcédoine. C'est-à-dire que, voilà, il faut distinguer les plans. On ne peut pas complètement séparer le moi et le soi. Sinon, on tombe dans l'idée que le sujet n'est qu'un pur réceptacle, et qu'au fond, une marionnette entre les bras de...
Non, parce que là, il n'est pas question de réceptacle de l'esprit. L'esprit n'est pas versé, comme dans certains passages, où on dit que voilà, l'esprit est versé comme dans des vases d'argile.
Donc, il y a une tension qui est effectivement...
Mais c'est plus un dysfonctionnement interne, j'allais dire. C'est un dysfonctionnement interne qui fait que... voilà, on a peut-être chose de... Voilà, il y a un dysfonctionnement, je dirais. C'est chose de... c'est-à-dire de soit de pas fini, soit de pathologique, qui fait qu'il y a quelque chose qui est... Mais quand même, là, c'est quand même fort le péché qui habite en moi et qui agit. C'est quand même... voilà, c'est fini.
Oui, mais si on faisait une lecture pascalienne ou bérulienne, Il y aurait l'ange et la bête, et Pascal dirait qu'il veut faire l'ange fait la bête, c'est-à-dire que on ne peut pas séparer ces deux. Au fond, Paul est très dur, parce qu'il dit, en gros, c'est abominable. Il est un peu comme Augustin, il y a la fameuse écharpe dans la chair.
Non, mais ce n'est pas dur, c'est un programme, c'est montré comme une visée, et ensuite le reste, c'est un accouchement. Mais je crois qu'il montre bien là quand même que de toute façon, l'homme par lui-même ne peut pas se libérer de ce dysfonctionnement, et qu'il faut l'attendre comme quelque chose. Mais l'enjeu finalement du salut, le nœud du problème du salut, c'est pas quelque chose d'extérieur comme une amnistie, c'est absolument pas la question.
Ici, oui.
C'est une.
On n'efface pas une, le.
C'est pas la question. C'est-à-dire, c'est déjà ça, c'est déjà réglé. C'est absolument pas la question. La question, c'est qu'il y a un dysfonctionnement à l'intérieur de l'homme, ou quelque chose qui est pas fini, ou il y a un vrai moi qui est pas tout à fait révélé, qui est pas accouché, qui est à, je dirais, à faire peut-être pas même pas naître, mais à libérer, voilà, à libérer. Et ça, c'est par l'Esprit de Dieu. Et finalement, il y a ces sortes de conscience, d'intelligence personnelle qui pourra enfin s'exprimer plus librement. Et ça, voilà, qui me dit, d'un coup, il tourne à la prière, finalement, au Seigneur prend pitié, dans un sens, au verset 24. Ça, c'est quelque chose, voilà, le Kyrie eleison, ça va retentir quand même, probablement, un petit
Viens
peu dans
Viens au secours de notre faiblesse.
Qui me délivrera de ce corps qui appartient à la mort, ce corps de mort. Donc, comme tu dis, c'est peut-être pas mon corps qui est source de mort, mais c'est un corps qui est touché par ça. Ben oui, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur, qui ressuscite cette chair. Qui ressuscite ce corps alors qu'il était dans cette mauvaise logique, dans cette logique purement égoïste, comme tu disais, eh bien, elle va pouvoir, cette chair, ce corps, va pouvoir être pour la vie, finalement.
Je reviens juste une chose sur, avant qu'on lise la suite, chapitre 8, sur l'histoire d'aliénation, parce que ça a été un vrai débat. Notamment, on sait que dans la communauté de Corinthe, il y avait des gens qui disaient, oui, puisque le péché abonde, mais la grâce surabonde. Et puis, quand je fais le mal, c'est pas vraiment moi qui fais le mal. Donc, allons-y. Et il y a eu une tendance à faire une lecture de ce passage du régime de la loi au régime de l'esprit et de la liberté. Il y a eu tendance à faire une lecture libérale, voire laxiste, voire licencieuse, d'une certaine manière. Et on voit bien que dans l'Épître aux Corinthiens, notamment, saint Paul intervient pour rectifier. C'est là que par deux fois, vous savez, il dit « tout est possible, mais tout n'est pas utile ». « Tout est permis, mais tout n'est pas profitable ».
Oui.
« Tout est permis, mais tout n'édifie pas ». C'est-à-dire que certes, sous la mouvance de l'esprit, tout est possible. Il n'y a plus vraiment un précepte pour vous dire « voilà ». Mais attention, notamment dans tout ce qui concerne les mœurs, tout n'est peut-être pas édifiant, non pas au sens
mais c'est que cette liberté, c'est pas la liberté du renard dans la basse-cour. C'est la liberté, c'est pas la liberté de faire n'importe quoi, c'est la liberté par l'esprit. C'est-à-dire que cet esprit, non seulement il nous libère des dysfonctionnements internes, mais aussi c'est un esprit qui est un esprit de communion avec Dieu. C'est un esprit qui est créateur dans le bon sens du terme, puisque par cet esprit nous sommes faits à l'image de Dieu, c'est-à-dire créateur pour créer la vie, pour donner la vie, pour embellir la vie.
Et il irait même jusqu'à dire, Paul, c'est un esprit d'appartenance au Christ, c'est-à-dire que nos membres ne sont plus à nous, mais nos membres sont au Christ.
Ils sont christiques, en fait.
C'est le titre que tu avais choisi pour l'année, d'ailleurs. Vous avez été appelé à la liberté.
Oui.
Ça vient de l'Épître aux Galates, aux Galates, qui reprend un peu aux Romains. Hein. Vous savez, Galates, c'est une espèce de digest de Romains. Et au chapitre 5, il dit « Vous avez été appelé à la liberté, seulement que cette liberté ne se tourne pas en prétexte pour la chair. » Donc, il voyait bien que ce qui pouvait menacer, il voyait bien les ambiguïtés. Et il dit, cette liberté ne peut pas être prétexte pour la chair parce que, précisément, vous n'êtes plus à vous-même. Vous appartenez au Christ. par le baptême, justement, au sens vraiment plénier. Et ça, je trouve que c'est une belle réponse.
En tant qu'on est membre du incorporé au Christ.
Eh oui, et le corps est temple de l'esprit. Etc.
Oui, mais là, ce n'est pas du formatage, c'est quand même chacun qui devient, qui a une bonne créativité personnelle, et donc que Dieu même ne peut pas deviner ce qu'on va inventer. Puisque l'esprit, par définition, c'est quelque chose qui est un jaillissement de nouveautés, en fait. Et donc, il y a la création, par exemple, Jean-Sébastien Bach, quand il compose une fugue, ou une triple fugue, eh bien, Dieu lui-même est surpris de ce qu'il invente. C'est du Jean-Sébastien Bach.
Hein. Oui, donc tu opposes, parce que ça c'est assez classique, le Fils et l'Esprit. Donc l'incorporation au Fils, comme appartenance au Fils, avec l'idée organique de l'appartenance à une Église, qui serait le corps du Christ.
C'est pas l'Église qui est le corps du Christ, c'est le Christ qui est, ça dépasse largement les limites des institutions et des Églises en tant qu'institutions, mais même.
Parce que Vatican II a dit.
Oui, bien sûr.
Tout à fait.
Bien sûr.
C'est l'Esprit qui est.
Et donc.
Un peuple de Dieu.
Oui. Enfin bref.
Moi, j'ai tendance à ne pas opposer les deux, mais bon.
Non, mais je n'oppose pas les deux.
Un problème, me semble-t-il, on tourne un peu autour. Comment le péché vient-il à l'homme? Et ça permettrait de savoir comment on peut s'en défaire. Est-ce qu'il vient comme une maladie? Après tout, on a la responsabilité dans une maladie de ne pas prendre froid, de ne pas sortir impunément à n'importe quelle heure quand on a de la fièvre, avant la fièvre même. Et puis, il y a le virus qu'on ne contrôle pas. Je ne sais pas si ce texte permet de répondre à cette question. Comment le péché vient-il à l'homme?
Dans mes membres, je découvre une autre.
Ouais.
Non, mais à mon avis, c'est parce qu'en fait, il est dans la chair. Et effectivement, nous sommes, au début, nous sommes chair. Et donc, c'est parce qu'au début, la cellule, elle est égoïste, de toute façon. Donc, en fait, c'est un manque de bien. C'est pas.
La cellule ne cherche qu'à survivre.
Mais même, c'est un manque d'évolution. C'est un privatio boni, c'est un manque d'évolution. C'est pas. Ça peut être aussi un choix par certains moments, mais à mon avis, c'est surtout. L'homme premier est charnel, et ensuite, l'homme spirituel vient ensuite, explique Paul. Donc, effectivement, quand on est au début, la cellule, elle cherche qu'à se reproduire et à profiter de ce qui est autour pour se nourrir. C'est normal, c'est pas. Sauf que si on en reste à ce niveau-là, on est complètement centré sur nous-mêmes et profiter ce qui est autour, mais il n'y a pas cette synergie. Donc je pense que oui, on est appelé à recevoir un supplément d'être. D'ailleurs, c'est comme ça que l'évangile de Jean propose de lire l'événement Christ comme une étape supplémentaire dans la création. Ça nie pas la première ou que la première soit bonne, mais la première en elle-même, on est un pur animal et bon, on est appelé un peu plus que ça. On ne peut pas en vouloir à l'embryon, quand il est composé de 4 cellules, d'être égoïste. Ce n'est pas une maladie, c'est un manque de développement. Ou au bébé, de ne pas pouvoir connaître les béatitudes. Je veux dire, il a toute sa vie pour les apprendre et il faudrait bien plus pour arriver à les vivre.
C'est assez théilardien, hein. Enfin, tu as une vision assez évolutionniste en général.
Oui.
Mais c'est bien, chez Théard, il y a l'idée que plus on avance vers le point oméga, plus l'amour est rendu possible. Parce qu'initialement,
l'amour en tant qu'agapé, je veux dire, le bébé, on peut pas lui demander ça. C'est évidemment.
Sans péché, il n'y aurait pas de dynamique. On s'ennuierait pas de la fille.
Oui, mais alors ça c'est autre chose. Oui, mais moi je suis littéraire de formation, alors comme disait André Gide, il n'y a pas de littérature avec de bons sentiments. Et là où il y a du péché, etc., c'est passionnant, c'est Stendhal. Oui, il faut des forces qui vont, des gens qui s'affirment. Non, il faut des gens passionnés. La passion, forcément, pour un moraliste, c'est déjà le péché. Et pourtant, là, il n'y a pas de. On ne fait rien sans passion. La notion de passion est intéressante parce que la passion, dans la passion, on est passif, justement. On est un peu aliéné, donc c'est une fausse action. Mais il n'y a pas d'action sans passion, donc vous voyez bien. Je reviens à l'idée quand même des cellules, etc. C'est pour ça que lorsqu'on invoque la nature dans des débats sociaux, sociétaux, etc., il faut toujours faire attention à ce qu'on fait. Parce que la nature... en soi, c'est ça, c'est les cellules égoïstes.
Bah oui.
La nature a quelque chose de un peu fasciste. Donc, alors la loi naturelle chez les stoïciens, c'était déjà autre chose. C'était la loi du logos. Donc, mais enfin, ça reste quand même entaché de
voilà. Naturalisme.
La nature, le naturalisme, oui. C'est...
On continue avec ce beau passage, la libération par l'esprit. Il y a quand même là, chose d'encourageant, non ?
Allez-y.
La libération par l'esprit. Il n'y a donc maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Car la loi de l'esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Ce qui était impossible à la loi, car la chair la vouait à l'impuissance, Dieu l'a fait. À cause du péché, en envoyant son propre Fils dans la condition de notre chair de péché, il a condamné le péché dans la chair, afin que la justice exigée par la loi soit accomplie en nous, qui ne marchons pas sous l'empire de la chair, mais de l'esprit. En effet, sous l'empire de la chair, on tend à ce qui est charnel, mais sous l'empire de l'esprit, on tend à ce qui est spirituel. La chair tend à la mort, mais l'esprit tend à la vie et à la paix. Car le mouvement de la chair est révolte contre Dieu. Elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Elle ne le peut même pas. Sous l'empire de la chair, on ne peut plaire à Dieu. Or vous n'êtes pas sous l'empire de la chair, mais de l'esprit, puisque l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit du Christ, il ne lui appartient pas. Si Christ est en vous, votre corps, il est vrai, est voué à la mort à cause du péché, mais l'esprit de votre vie à cause de la justice. Mais l'esprit est votre vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous avons une dette, mais non envers la chair, pour devoir vivre de façon charnelle. Car si vous vivez de façon charnelle, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir votre comportement charnel, vous vivrez. En effet, ceux-là sont fils de Dieu, qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Vous n'avez pas reçu un esprit qui vous rende esclave et vous ramène à la peur, mais un esprit qui fait de vous des fils adoptifs et par lequel nous crions « Abba, Père ». Cet esprit lui-même atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Enfants et donc héritiers. Héritier de Dieu, co-héritier de Christ, puisque, ayant part à ses souffrances, nous aurons part aussi à sa gloire.
Bon, alors c'est à couper le souffle. Hein. C'est d'une densité, c'est un exposé de la foi chrétienne qui est très impressionnant, où la libération passe par la filiation. Donc il ne s'agit pas de tuer le Père, au contraire, c'est d'entrer dans un amour du Père, et la filiation nous rend co-héritiers, voilà. Et en même temps, donc, on n'est plus esclave, on devient fils, mais on est fils dans le Fils, donc, et le Fils c'est Jésus qui a pris la condition d'esclave, justement de serviteur, donc on redevient serviteur, mais plus le serviteur qui maugrée, qui murmure, et le serviteur qui... Voilà, qui est dans l'accomplissement de la volonté du Père. Enfin, là, il y a quelque chose d'extraordinaire. Alors, vous avez vu qu'il est quand même... C'est un prédicateur, ici. Hein. Il ne connaît pas la communauté de Rome. Et il espère aller à Rome. D'ailleurs, vous savez qu'il finira par y aller et y mourir. Donc, il s'adresse à des gens. Et il dit, j'ai hâte de vous rencontrer pour vous confirmer dans la foi, pour... que nous puissions nous consoler les uns les autres dans la foi. On voit bien que par moments, il joue un peu le rôle d'un pasteur. Hein, quand il dit au début, en nous qui ne marchons pas sous l'empire de la chair, il présente ça comme un fait avéré. Bon, ça, c'est un peu une astuce de prédicateur. Hein. C'est pas du tout sûr que tout le monde dans la communauté de l'Église de Rome ne marche pas sous l'empire de la chair. Donc vous voyez, c'est un peu quelquefois la limite de Paul, c'est qu'il présente vraiment les choses. On est passé de l'autre côté. Hein. Tout a été joué dans la Pâque, on a été baptisé dans la Pâque, on est mort au péché, etc. Certes, il y a du péché résiduel, mais pour lui, c'est... Voilà, c'est rien, d'une certaine manière. Alors, si on respire à la hauteur de Paul, on comprend. Le problème, c'est que le troupeau voilà, n'est peut-être pas entièrement convaincu qu'il ne marche pas sous l'empire de la chair. Hein, il dit ensuite au verset 9, « Or vous, vous n'êtes pas sous l'empire de la chair, mais de l'esprit. » D'accord, enfin, c'est lui qui le dit. Hein. Ça, c'est la puissance de la parole de l'apôtre. Quand même. Ah, si, quand
il n'est pas vraiment marqué sous l'empire de la chair, il est marqué « Nous qui ne sommes pas selon la chair, en fait. » Et donc, je crois que c'est plus...
Kata, c'est kata sarkin,
sarka. C'est haine.
Ah oui, donc dans la chair, oui. Il y a quand même l'idée de...
Oui, mais je crois que c'est une question de visée, en fait. C'est-à-dire qu'on n'est pas... on n'est pas...
C'est pas ace, c'est haine. Donc c'est le lieu où on est, quand même. C'est le... On n'est pas ancré dans la chair. Oui, sous l'empire, c'est selon... peut-être...
C'est-à-dire que, oui, je pense que c'est plus une question de visée, en fait. C'est plus une question de visée que d'en être... Mais bon, effectivement, quand il utilise le terme d'enfant aussi, c'est affaire de dire que, bon, l'enfant, ce n'est pas encore un adulte. L'enfant, il est en devenir, il est en croissance, il est déjà là, l'enfant. C'est déjà lui-même, mais bon, en petit quand même. Donc là, il y a aussi quelque chose qui invite à une compréhension progressive, je crois, de cette réalisation. En tout cas, moi, le verset 4 m'intéresse, là. « Afin que la justice exigée par la loi soit accomplie en nous. » Donc, c'était bien ça. C'est-à-dire que la loi n'est pas mauvaise. De dire « tu ne tueras pas », c'est pas mal. « Tu ne convoiteras pas, tu honoreras Dieu en vérité. » quoi. C'est quand même, c'est super. La question, c'est que on est dans la crainte, comme on le voit ici. Hein, il dit « on n'est plus sous la crainte pour être encore comme des esclaves qui devront compter, attendre le salaire ou bien être... coupé en tranches fines si le chef n'est pas content. Donc, c'est plus ça. En même temps, la loi ne nous aidait pas, elle ne nous accomplissait pas, finalement, cette capacité. Bon, mais c'est accompli en nous par l'Esprit, en fait. C'est accompli par l'Esprit, comme il l'a fait en Christ. Alors ensuite, c'est vrai que il y a cette confiance. Finalement, quel est l'intérêt du Christ là-dedans? Ben, peut-être c'est au verset... Il révèle finalement que celui qui a ressuscité Jésus-Christ, l'Esprit de Dieu qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, pour ressusciter, on a toujours l'idée un peu d'un retour. Là, c'est pas... Bon, c'est jamais ça, si vous voulez. C'est rarement ça dans le mot du grec. Là, qui a fait se lever Jésus d'entre les morts. Donc on peut voir là aussi, c'est pas une guérison, si vous voulez, c'est plus une ouverture à la vie d'entre les morts habite en vous, ben, et vous donnera aussi finalement cette vie de vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Donc là voilà, on voit bien cet acte de Dieu en nous pour nous apporter cette vie christique, j'allais dire. Alors ensuite, il y a la dette, effectivement. Ça, c'était la question. Hein. C'était la logique au verset 12.
Nous avons une dette.
Une dette envers la chair. Alors on attend, vous n'êtes pas une dette envers... Non envers la chair pour vivre de façon mortelle, on attend, mais une dette envers l'esprit. Ben non, il n'y a pas de dette envers l'esprit non plus. Parce que on est dans la grâce, c'est-à-dire que l'esprit, c'est la liberté. Après, on n'est plus dans un régime de salarié, finalement, ou encore moins d'esclave. Ou de dette. La grâce, c'est le contraire de la dette. Donc peut-être dans le Notre Père, pardonne-nous comme nous pardonnons, ben, c'est délivre-nous de la dette vis-à-vis des autres, et puis qu'on ne soit pas non plus dans cette logique de la dette pour nous-mêmes, finalement.
Moi, je pensais que la dette, c'était la réponse que l'on donne à la grâce, c'est-à-dire l'action de grâce. On rend grâce. Justement, on dit bien rendre grâce,
oui.
Parce qu'on a, la grâce est première, et on répond.
Oui, mais c'est plus une réponse, c'est de la gratitude, c'est pas une dette vis-à-vis de la grâce. C'est-à-dire que, ça je crois que c'est vachement pervers. Les parents qui disent, après tout ce qu'on a fait pour toi, tu pourrais machin. Alors ce Dieu qui dit, ben, quand même, j'ai donné mon fils, tu pourrais un peu m'aimer, mais c'est dégueulasse, parce que s'il a donné son fils, ça lui faisait plaisir de le donner, et ben on est très content pour lui, il s'est éclaté. Maintenant, nous, on est libre, je veux dire, et je crois que c'est bien ça qui est marqué. On n'est plus du tout dans une dette vis-à-vis de l'Esprit. Ça a fait, c'était le bon plaisir de Dieu de nous aimer, de nous appeler à la vie, de nous donner la vie. Ben, oui, on est très content qu'il soit content. Maintenant, on est sous la liberté. Bon, cela dit, il nous dit...
Voilà, on fait les tailles, il dit. C'est pas vrai. C'est l'idée, nous sommes redevables, quoi.
Oui, on n'est pas redevable. On n'est plus redevable selon la chair. On n'est pas redevable vis-à-vis de l'esprit non plus. Et quand il dit... moi, je trouve que c'est en fait... Il nous donne un esprit par lequel nous crions Abba Père. On n'est pas forcé du tout. Je veux dire... on n'est pas forcé du tout. C'est un cri de gratitude. Et ensuite, il nous dit, en fait, vous êtes co-héritiers. Ben, en fait, il dit, vous êtes chez vous, en fait. Tout est à vous. Ben, on n'est plus dans une logique de dire, voilà, vous êtes chez vous. Si vous voulez, enlever les fenêtres de la maison, ben, vous aurez froid l'hiver. C'est comme ça, hein, mais on a le droit, à la limite. Hein.
Tout est à vous, mais vous êtes au Christ, et le Christ est à Dieu. C'est où, ça, déjà?
Oui, ça, c'est du Paul, en tout cas.
J'ai parlé de ça au cours d'une nuit de l'éthique. Tu m'avais fait parler à 3h du matin, là-dessus. Tout
Désolé.
Est à vous, mais vous êtes au Christ, et le Christ est à
oui,
Dieu.
Non,
c'est du Paul.
Oui. C'est du Corinthien, ça, non?
Corinthien, oui. Mais c'est beau. C'est toujours l'idée, tout est permis, mais attention. En fait, comme vous êtes maintenant dans une appartenance par la Pâque et le baptême... J'insiste sur le baptême, mais c'est le baptême évidemment au sens théologique. Mais enfin, c'est
baptême au sens où on est
quand même un lien entre...
Oui, c'est ce que vient signifier notre baptême, je suis d'accord, tout à fait. Oui.
Et donc, tout est à vous, mais vous êtes au Christ et le Christ est à Dieu. C'est un peu comme ça qu'il faut l'entendre.
Mais là, co-héritier. Co-héritier. Et puis, ayant part à ses souffrances. En fait, on est co-souffrant et on est part aussi à sa gloire, on est co-glorifié en fait. Et donc je crois que là, dans ce collectif qui est ici et sorti, si vous voulez, il y a vraiment l'idée qu'on est un seul corps. Et ça, je trouve que c'est assez beau. C'est-à-dire qu'effectivement, la beauté de la vie, la vérité de la vie est dans ce collectif. Où, ben, je veux dire, quand il y en a un qui fait n'importe quoi, ben, le corps entier souffre. Et c'est pas que Dieu dise, ben, tiens, je vais leur envoyer des malheurs parce qu'ils font le mal. Non, c'est parce que la vie est comme ça. Comment voulez-vous ? La vie est comme ça, en effet, pour être comme un corps, qu'il y ait cette compassion...
C'est 1 Corinthiens 3, oui. Oui. Voilà. Oui. Apparemment.
Oui. Et donc, j'aime bien, moi, la fin, donc le verset 17, avec ces trois co-héritiers, co-souffrants et co-glorifiés. Alors, glorifier, c'est pas simplement une légion d'honneur, hein, la gloire de Dieu, c'est... La puissance de vie, quoi, de donner la vie, en fait. La gloire de Dieu, c'est ce qui accompagnait les Hébreux hors d'Égypte pour leur donner, leur révéler la parole, pour les faire avancer dans le désert. Donc c'est ça, co-glorifier, c'est dynamiser, envoyer en avant avec une idée d'une révélation qui est puissante pour trouver la vie. Et puis co-souffrant aussi, parce que c'est vrai que quand on aime, eh ben, on souffre avec l'autre, et donc on partage cette souffrance ensemble, de celle des autres. Mais à ce moment-là, c'est même plus de dire, de sentir, tiens, il faut que tu serves ton frère, et donc... Non, mais c'est parce que la souffrance de l'autre va nous être souffrance pour nous aussi, et donc on a envie de l'aider, parce que ça vient d'un bon fond, quoi, c'est comme ça. On n'est plus dans une dette, moi, je trouve, dans ce texte. Et ça, je trouve que là, il y a un changement de logique, en fait, qui est le régime de... Alors, bien sûr, cette liberté, ce n'est pas de faire n'importe quoi. Au contraire, c'est une liberté qui est enracinée dans une vie profonde, qui est christique.
Que veulent dire ces différents termes adoptifs, enfants, héritiers, héritiers, co-héritiers ? Pourquoi une différence entre héritier de Dieu et co-héritier du Christ ? Comme s'il y avait une sorte de... partage plus grand avec Christ, mais de Dieu est tellement grand qu'on peut hériter, je ne sais pas.
J'ai l'impression, si vous voulez, que souvent, dans Paul, et on le retrouve souvent, il y a l'idée que l'homme nouveau, l'homme que Dieu, l'Adam véritable, c'est à la fois chacun de nous, quand on reçoit l'Esprit de Dieu, on est prêtre, prophète et roi, comme au cours du rite du baptême, Donc chacun de nous, on est un petit Christ en fait. Mais l'homme nouveau, c'est aussi l'ensemble de l'humanité comme un corps qui est le corps du Christ. Donc c'est toujours un peu les deux. Donc on est à la fois héritier, on est à la fois fils, Christ est le fils unique d'un très grand nombre de frères. Donc on est des petits frères et petites sœurs du Christ. D'ailleurs, le Christ lui-même, à la fin de l'évangile selon Jean, il dit à Marie-Madeleine, mon père est votre père. Et c'est très fort, c'est-à-dire que du coup, en effet, frères et sœurs du Christ, donc sur le même niveau finalement. Donc on a ça, et en même temps, on est co-héritier, c'est-à-dire c'est quand même collectivement qu'on va être christique. Ça, à la limite, ça relativise aussi, et ça responsabilise peut-être aussi les uns pour les autres. Et je pense qu'il faut tenir un peu les deux, mais c'est toujours un peu la limite de ces images. On est à la fois fils adoptif, c'est-à-dire que même si on est nul, uniquement par le bon vouloir de Dieu, on est considéré comme son enfant. Donc ça, c'est la grâce totale. Il n'y a rien de plus gratuit que d'adopter un enfant. Ce n'est pas le nôtre. On n'en a rien à faire de ce gosse qui ne nous ressemble même pas. Eh bien si, on choisit qu'il devient notre enfant, alors qu'il n'y a aucune raison. Mais ensuite, il y a l'idée de devenir enfant de Dieu. On n'est pas seulement fils adoptif, on est appelé à se laisser enfanter comme le Christ est devenu enfant de Dieu ou est enfant de Dieu, voilà. Donc c'est toujours un peu les deux, donc c'est les limites de ces images, c'est que bon, c'est toujours un petit peu tordu, si vous voulez, dans les bords.
Intéressant, c'est kleronomos, donc c'est l'idée de ce qui a donné le mot clair. Le clair étant considéré, c'était le kleros, c'était le mécène dans une armée qui... À qui on donnait un domaine, ce qui fait dire qu'aujourd'hui, d'une certaine manière, la notion de clair devrait être étendue. L'idée qu'il y a un héritage pour une espèce de tribu de Lévi n'a plus vraiment de sens. Enfin bon.
Peut-être qu'on peut lire toute la fin.
Ou peut-être juste parce que c'est déjà l'heure, l'hymne à l'amour, qui n'est pas l'hymne à la charité de Corinthiens, mais qui est aussi évidemment un texte fondateur.
Hymne à l'amour de Dieu. Que dire de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous tous, comment, avec son Fils, ne nous donnerait-il pas tout? Qui accusera les élus de Dieu? Dieu justifie. Qui condamnera? Jésus-Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, lui qui est à la droite de Dieu et qui intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour du Christ? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger, le glaive? Selon qu'il est écrit, à cause de toi, nous sommes mis à mort tout le long du jour. Nous avons été considérés comme des bêtes de boucherie. Mais en tout cela, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, j'en ai l'assurance, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les autorités, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les forces des hauteurs, ni celles des profondeurs, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur.
Personnellement, je pense que c'est un des plus grands textes et une des plus belles prières. Nous verrons la fois prochaine que précisément cette communion de vie avec un Dieu qui libère et dont rien ne peut nous séparer, ni la mort, ni l'avenir, se concrétise dans le service de l'autre, et on le verra à partir de la première aux Corinthiens. Voilà, donc le 15 avril, nous serons à l'oratoire du Louvre, ce sera après Pâques, nous serons dans le temps pascal, et nous aurons des visages de ressuscité. Et voilà, donc, mais vous pouvez, je vous invite à lire le corpus paulinien, hein, parce que c'est... Voilà, c'est... fait partie de...
Oui, puis si on ne comprend pas tout, on peut grappiller des passages comme ça qui sont vraiment extrêmement lumineux Et puis des passages choquants au détour des pages, ben on passe et puis c'est tout. Il faut cette bienveillance aussi vis-à-vis du texte pour prendre le meilleur. Comme cette parole voilà, qui dit que l'amour de Dieu est manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur, c'est une méditation pour Pâques qui me semble effectivement essentielle de voir dans la croix du Christ la manifestation de l'amour de Dieu et non pas quelque chose qui achète l'amour de Dieu, ce qui me semble épouvantable. Donc là, on a une belle méditation, je crois, pour notre temps de Pâques.
Voilà.
Merci, bon retour.
Merci, bonne soirée.